Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour, quelle joie de vous retrouver. Maintenant, nous pouvons entrer dans la catéchèse du jour, sous le regard, sous le sourire de notre Mère du Ciel, qui est là avec nous et qui nous aime. Confions-lui ce moment de catéchèse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu dans les catéchèses précédentes, un petit peu, pas d'une manière exhaustive bien sûr, la richesse que contient la réalité du regard. Le regard humain, le regard de Dieu, se laisser regarder par le Seigneur, regarder le Seigneur et apprendre à regarder comme lui, non seulement le Père, mais toute chose. Nos frères et sœurs et nous-mêmes, bien sûr, et la création tout entière. Nous avons ensuite parlé un petit peu de l'ouïe, du son, voilà, en parlant de qui sommes-nous et d'où venons-nous. Nous avons parlé de notre origine qui est actuelle. C'est maintenant. Maintenant, nous venons de Dieu par la puissance de l'acte créateur de Dieu, ce qui fonde vraiment notre adoration extraordinaire. Et le son, c'est immédiatement la question d'où viens-tu, d'où ça vient. Quand on entend un son, on se dit, voilà, intelligence, elle fonctionne comme ça, c'est-à-dire que liée à nos cinq sens externes, elle se pose des questions et la question de l'intelligence avec l'ouïe, en lien avec l'ouïe, eh bien c'est la question de l'origine. C'est pour ça que je me suis permis de regarder un petit peu ces questions pour nous enraciner dans notre origine divine, actuelle. Magnifique. C'est le fondement de notre existence. Nous venons de Dieu. Alors aujourd'hui, et peut-être dans la prochaine catéchèse, je voudrais aborder avec vous ce que le sens du toucher recèle de richesse. Parce que nous sommes, chacun de nous, d'une richesse incomparable, et avec non seulement notre dimension spirituelle, donc intelligence, volonté, et puis notre mémoire, et puis toute notre vie passionnante de nos passions, notre vie sensible, notre vie instinctive, nous avons ces cinq sens externes et le toucher. C'est vraiment un sens très important parce que c'est le sens de l'existence, d'une réalité. Quand je touche quelque chose, je rejoins une réalité qui est extérieure à moi-même, qui est autre, et pourtant, avec laquelle je peux être en contact. Je me mets en contact d'une manière tout à fait particulière à travers le toucher, bien sûr, à travers les autres sens. Mais le toucher est particulier pour plusieurs raisons. Déjà, l'organe du toucher, ce n'est pas un bout du corps comme l'oreille pour l'ouïe, le nez pour l'odorat, ou le palais pour le goût, ou l'œil pour la vue. Non, l'organe du toucher, c'est tout le corps. Tout le corps. Eh oui. Par tout notre corps, nous entrons en contact avec une réalité qui est autre, par le toucher. Alors, je peux toucher par ma main, bien sûr, mais je touche avec mes pieds, je touche avec mon ventre, vous voyez, c'est tout le corps qui est l'organe du sens du toucher. Et puis, bien sûr, l'objet du toucher, vous le savez bien, c'est quand je touche une réalité, là, par exemple, je touche la table, elle est un peu froide, hein, un petit peu froide, je trouve. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un peu de chauffage, parce que c'est le chaud, le froid, le sec, l'humide, le dur ou le mou. Et donc cette sensation du toucher, vous voyez bien, est tout à fait différente des autres sens. Bien sûr complémentaires, parce qu'en même temps que je touche, je vois, j'entends, je peux goûter, je peux sentir. Bon. Alors, c'est le sens le plus fondamental. Le plus réaliste, on dit. Et c'est le sens, c'est le toucher qui est le sens de la vie par excellence. Vous savez qu'il y a des expériences qui ont été faites, enfin je ne sais pas si elles ont été faites volontairement ou pas, mais on sait ces choses. Lorsque un nouveau-né Vous le laissez là comme ça, vous ne le touchez pas pendant non seulement des heures, mais des jours. Il se laisse mourir. Nos personnes âgées, frères et sœurs, lorsque vous allez un peu dans les EHPAD, regardez à quel point le toucher, quand vous attrapez la main d'une personne âgée, par exemple quelqu'un, même quelqu'un qui est très malade, qui a la maladie de l'Alzheimer, vous touchez, vous caressez sa main. Vous comprenez que même si la connaissance est faible, il se passe quelque chose. Ça met en contact avec une réalité, même avec quelqu'un dont la tête, voilà, ne fonctionne plus bien. La mémoire est partie en vrille. Tout part en vrille. Mais il y a ce toucher qui fait qu'on est en contact immédiat avec une réalité extérieure à nous. Alors bien sûr, nous reviendrons dans la dernière partie de cette catéchèse sur le toucher, sur l'importance justement d'être attentif à cette réalité. Et notamment lorsque je m'adresse à ceux et celles qui visitent des personnes âgées, des personnes malades. Bravons nos peurs, frères et sœurs. Touchons les malades. Quoi? Comment toucher les malades? Mais enfin, ça ne va pas du tout. Ben, nous verrons que nous allons faire un petit tour du côté de la parole de Dieu et surtout de l'Évangile. Alors voilà, n'ayons pas peur. Le toucher. C'est quand même étonnant que nous sommes dans une période un peu particulière où nous nous éloignons les uns des autres. Et beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, on se fait moins la bise, comme on dit. On se touche moins par cette crise et tout ce qui va avec. Le sens du toucher a été impacté, indéniablement. Alors, ce sens si fondamental pourtant, si vital, si lié à la vie. Je disais qu'un nouveau-né, si on le laisse tout seul sans le toucher, il se laisse mourir, mais les personnes âgées, malades, si on ne les touche pas, elles se laissent mourir aussi. Vous voyez, ce n'est pas que des visites derrière une vitre avec des masques et des combinaisons d'astronautes, non. Le toucher, le sens le plus réaliste. Je te touche, je suis là, tu es là. C'est la présence, c'est une réalité autre. Alors, je voudrais maintenant aborder ce sujet dans la Bible. Et tout d'abord, dans l'Ancien Testament, bien sûr, Dieu étant invisible, intouchable par excellence, puisque Dieu est esprit et nous sommes des petites créatures, si Dieu est tout autre, on ne peut pas le toucher. Immédiatement, bien sûr. On touche une table, on touche une réalité qui est accessible. Mais Dieu, c'est l'inaccessible. Alors, il y a une séparation infranchissable. Dieu est le tout autre, absolument transcendant. Il n'est pas touchable par nos sens. Et Dieu, c'est le sacré, le divin, et nous, on est dans l'ordre du créé, sur cette terre bien matérielle. Et pourtant, nous sommes esprits aussi, oui. Alors, il y aura un rapport à Dieu dans l'Ancien Testament, qui sera considéré à juste titre d'ailleurs, pour respecter l'absolue transcendance de Dieu. Dieu est redoutable. On ne peut pas le toucher. Il y a, par exemple, dans la montagne de Dieu, dans le livre de l'Exode, marqué par la présence de Dieu qui vient visiter Moïse, le Seigneur dit à Moïse: Va trouver le peuple et fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements et se tiennent prêts pour après-demain, car après-demain le Seigneur descendra aux yeux de tous, de tout le peuple, sur la montagne du Sinaï. Puis établit des limites pour le peuple en disant: Gardez-vous de gravir la montagne et même d'en toucher le bord, Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Alors, si on ne peut pas toucher Dieu, quand Dieu vient toucher, vient visiter son peuple sur un lieu physique, une montagne, ce lieu devient sacré et on ne peut plus le toucher. Transcendance et sainteté, la sainteté de Dieu. Transcendance et sainteté sont inséparables. Et la sainteté divine implique une séparation du profane. Il y a donc des lieux considérés comme sacrés et d'autres comme profanes. C'est la vie du monde. Mais il y a des lieux qu'on sépare, qu'on met en exil. Pourquoi ? Parce que ce lieu est saint, parce que Dieu visite ce lieu, se rend présent. Et les lieux où Dieu se rend présent sont même interdits dans plusieurs passages dans la Bible. De même, l'arche de l'Alliance sera intouchable. On n'a pas le droit de toucher. Et puis, non seulement Dieu, mais le lieu qu'il visite, des choses. Et donc, il y a des choses qui sont consacrées pour le culte. Non seulement des choses, mais des personnes. Il y a les prêtres. Mais tout ce qui tourne au service cultuel est considéré comme séparé. Dans le monde du sacré, donc, par exemple, dans le livre de l'Exode, beaucoup dans le livre du Lévitique, et dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, il nous est dit, par exemple, « Chaque jour, tu offriras aussi un jeune taureau en sacrifice pour le péché, en expiation. Tu offriras ton autel, pour l'autel, pardon, un sacrifice pour le péché, quand tu feras pour lui l'expiation, et tu l'oindras pour le consacrer. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation pour l'autel, et tu le consacreras. Il sera alors éminemment saint, et tout ce qui touchera l'autel sera saint. » Il y a donc une mise à part, non seulement des choses qui sont considérées comme saintes parce que qui tournent autour du culte. Le culte, c'est le contact avec Dieu, avec le saint. Et du coup, il y a aussi Aaron et ses fils. Tu les consacreras, tu les oindras pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Et tu les consacreras, ils seront alors éminemment saints et tout ce qui les touchera sera saint. Il y a donc cette séparation. Pharisien, par exemple, ça vient de parache, ça veut dire séparé. Cette séparation d'avec le monde profane. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. On verra avec la personne de Jésus un peu plus tard. Il y a même un impact dans la vie sociale. L'impureté. On déclare pur et impur des choses. Il y a, par exemple, le cadavre. Si on touchait un cadavre, on était considéré impur, c'est-à-dire il fallait qu'on fasse des rites de purification pour retrouver la pureté légale. Le lépreux, quand il fallait qu'il crie « impur, impur !» Il y a donc dans le monde judaïque, de l'Ancien Testament, cette séparation qui nous vient bien sûr de la révélation divine. Dieu est Dieu, il n'est pas homme, et alors l'idolâtrie est considérée comme un péché abominable, à juste titre. Tu ne feras pas d'image de quoi que ce soit, et les idoles, elles ne parlent pas, elles ne sentent pas, elles sont faites de bois, de pierre. C'est une abomination que d'adorer et que de s'incliner devant une idole, parce que Dieu est tout autre. Néanmoins, tout en étant tout autre et le demeurant, Dieu s'approche. Ah oui, parce que si on ne peut pas le toucher, bien sûr, il vient toucher le cœur des hommes. mais il vient toucher aussi les lèvres, par exemple. C'est intéressant de voir que Isaïe et Jérémie, le Seigneur vient toucher leurs lèvres, comme les brûler, pour les rendre purs, justement. C'est-à-dire aptes à la mission de prophète dans laquelle le Seigneur les met et les envoie, pour que Isaïe, Jérémie, ne prononcent que les paroles de Dieu. Et que de ces lèvres impures qu'elles étaient, c'est-à-dire mélangées, elles deviennent pures, c'est-à-dire que ce qui sort de la bouche d'Isaïe et de Jérémie, ça doit être uniquement les paroles de Dieu, sans impureté, c'est-à-dire sans... Oui, sans mélange. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle en Dieu, par Dieu, pour le peuple, mais il ne doit dire que les paroles de Dieu. Il y a donc une marque avec un charbon brûlant, une marque qui est faite sur leurs lèvres, et c'est très beau de voir que pour rejoindre son peuple, Dieu passe par les prophètes, mais qu'il a comme consacré par le fait de toucher leurs lèvres. Alors, voilà un petit peu, bien, brièvement, bien sûr, on ne peut pas parler de tout, le temps nous est compté. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, la réalité du toucher à l'égard de Dieu. Dieu est l'intouchable. Frères et sœurs, dans le mystère de l'incarnation, ce sera un choc. C'est bon de parcourir un petit peu l'ancienne, la première alliance, pour voir un petit peu le choc que c'est que le mystère de l'incarnation. On est trop habitué. Le Verbe se fait chair. Voilà que Dieu se rend présent non plus sur une montagne fumante qu'on n'a plus le droit d'aller visiter, de toucher, parce que Dieu est passé par là, alors on ne touche pas. Non. Voilà que le Verbe se fait chair dans le sein de Marie et qu'à la naissance, il se laisse toucher. Extraordinaire. Alors, dans ce mystère de l'incarnation, on le verra, il y a ce double mouvement, bien sûr, c'est Dieu qui vient nous toucher en son Fils, vraiment Dieu, deuxième personne de la Trinité, assumant parfaitement une nature humaine, une vraie nature humaine, avec une vraie âme humaine, un vrai corps humain. Voilà que Dieu, dans l'humanité de son Fils, va se mettre à vivre humainement, mais complètement d'une manière divine. Dieu va toucher, Dieu va sentir, Dieu va aimer, Dieu va regarder, Dieu va goûter. Jésus, il a les vrais sens externes, mais sa manière de regarder, sa manière de sentir, sa manière de toucher est éminemment sainte. Et en plus, il vient rédempter, il vient restaurer, il vient nous réapprendre non seulement à vivre la vie théologale, la vie mystique, mais la vie dans nos sens. Il vient nous réapprendre à toucher. Tout ce que Jésus a vécu inaugure la vie nouvelle. Parce qu'il la vit. Il vit dans la divine volonté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés, et dès le moment de l'incarnation. Vous comprenez que celui qui est saint, inaccessible, intouchable, voilà qu'il est non seulement touchable, mais il est dans la chair de Marie. C'est Marie qui lui donne sa chair, son sang. Pour que l'humanité sainte de Jésus pousse, grandisse, et que ce Fils de Dieu vive dans son humanité tout ce qu'il a à vivre, et d'une manière immaculée. Il y aura donc en Jésus deux manières dont les grâces sortiront de son humanité sainte, car toute la grâce nous vient de l'humanité sainte de Jésus. Tout, c'est ce que nous dit Saint Jean. De sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce, grâce sur grâce. Ah bon, mais on n'était pas là il y a 2000 ans, mais ainsi pourtant, parce que justement tout ce que Jésus vit il y a 2000 ans dans son humanité rejoint l'humanité tout entière du premier Adam jusqu'au dernier homme créé. C'est extraordinaire. En Jésus était tout homme. En Jésus était tout homme. Du premier Adam jusqu'au dernier créé. Il y a donc dans tout ce que Jésus va vivre un impact dans tous les temps, passé, présent et à venir, et dans tous les lieux. Il est le roi de l'univers, pas seulement de la terre, mais de l'univers. Alors, c'est très important de comprendre que tout ce que Jésus va vivre dans son humanité va restaurer tout, 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 tout. Et que ce qui est en train de se passer dans le sein de Marie, c'est le monde nouveau, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume de la divine volonté, avec le roi qu'il est, la reine qu'elle est, elle, la mère du Verbe. Reine immaculée de l'univers. Et voilà donc que la grâce qui jaillit du ciel va rejoindre toute l'humanité, de tous les temps, de tous les lieux, par cette humanité sainte qui est en train de pousser dans le sein de Marie. Il y aura bien sûr aussi le contact immédiat. Immédiat, c'est-à-dire que quand les petits bergers arrivent, eh bien, ils voient, ils touchent, je pense qu'ils ont pris le bébé dans leurs bras. Il me plaît à penser que Marie leur a déposé l'enfant Dieu dans les bras et qu'ils ont tremblé de bonheur. Il me plaît à penser que les mages venus d'Orient ont pris l'enfant dans leurs bras après avoir honoré comme il faut le Messie, le roi des Juifs. Il y a donc bien sûr, de par le fait même que Jésus est vrai homme, par son corps physique, il est dans un lieu et non pas dans un autre, même si, étant Dieu, il pourrait avoir toutes sortes de bilocations, de trilocations. Il peut bien sûr visiter qui il veut, quand il veut, tout en étant physiquement dans un lieu, il n'y a pas de problème. Mais, de fait, quand il est à Bethléem, il est à Bethléem. Et que pour visiter, pour toucher l'enfant Dieu, il faut aller à Bethléem. Si on va à Jérusalem, c'est pas loin, mais c'est raté. Alors, par un seul de ses regards, par un seul mot de sa bouche, par un seul geste, de son toucher, Jésus va venir provoquer, communiquer la grâce par contact, en plus de venir sauver l'humanité tout entière, de tous les temps et de tous les lieux. Il va se passer des choses par le contact immédiat qu'est le toucher. Et je passe l'enfance, l'adolescence, et je vais directement dans la vie publique, où les évangiles nous racontent beaucoup de moments où il s'est passé quelque chose par le toucher entre Jésus et quelqu'un. Il y a par exemple deux aveugles de Jéricho qui demandent à Jésus C'est par exemple dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 20, verset 34. Je tourne les pages de ma Bible et je vous lis le passage. Comme il sortait de Jéricho, une foule nombreuse le suivit, et voici que deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils apprirent que Jésus passait, ils s'écrièrent: Seigneur, aie pitié de nous, fils de David! La foule les rabroua pour leur imposer silence, mais ils redoublèrent leurs cris: Seigneur, aie pitié de nous, fils de David! Jésus, s'arrêtant, les appela et dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui disent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue. Et ils se mirent à sa suite. Et Jésus touche les yeux. Et les yeux s'ouvrent. Guérison. Guérison. Miracle, miracle. Signe, signe. Miracle, c'est un fait. Les aveugles, ils ne voyaient pas, ils voient. Signe, c'est que ça faisait partie des signes annonciateurs de la présence du Messie, des temps messianiques, des prophéties qui avaient été données par Dieu. Il ouvrira les yeux des aveugles. Et oui, c'est donc une manifestation de la présence du Messie. Et Jésus touche les yeux. Il pourrait se contenter de rester à distance, encore une fois, mais il touche. Un aveugle à Bethsaïde aussi. Ils arrivent à Bethsaïde, nous dit l'évangéliste saint Marc, et on lui amène un aveugle en le priant de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait: Aperçois-tu quelque chose? Et l'autre, qui commençait à voir, de répondre: J'aperçois les gens, c'est comme s'ils étaient des arbres que je vois marcher. Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli, et il voyait tout nettement de loin. Et Jésus le renvoya chez lui en lui disant: N'entre même pas dans le village. Voilà que Jésus prend l'aveugle. On le prie de toucher l'aveugle, déjà. Il prend l'aveugle par la main, il met de la salive sur les yeux et lui impose les mains. Un autre aveugle. Et oui, il y a eu beaucoup de guérisons d'aveugles. Un aveugle né, celui-là. Il était à Jérusalem que Jésus rencontre. Jean, 9e chapitre de saint Jean. Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle, et lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé, ce qui veut dire envoyer. L'aveugle s'en alla donc, il se lava et revint en voyant clair. Enduire, salive avec une boue, voilà, les yeux de l'aveugle. Comme pour montrer quelque chose aussi de plus profond, bien sûr, et au-delà de la guérison réelle, et au-delà même du signe messianique, que nous sommes pétris par Dieu. Et si le Seigneur a guéri beaucoup d'aveugles, bien sûr, ce sont des cécité physique. Mais ce sont des guérisons qui signifient aussi une grande cécité spirituelle. Que le Seigneur vient nous guérir, dont le Seigneur vient nous guérir. Nous sommes faits pour voir Dieu, nous sommes faits pour voir Dieu à l'œuvre, et on ne le voit pas. C'est un problème. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Nous retrouvons l'aspect de la pureté et de l'impureté. Quand tu es pur, c'est-à-dire quand tu es non mélangé entre l'esprit de Dieu et l'esprit du monde, un coup le bon Dieu, un coup le gars du dessous, ou un coup ta nature humaine, tes passions, eh bien c'est compliqué pour toi de voir Dieu à l'œuvre. Parce que tu te laisses prendre par l'esprit du monde, alors tu vois plus Dieu à l'œuvre. Et tu dis, mais il est où Dieu? Je le vois plus. Je ne vois que méfaits, je ne vois que mauvaises nouvelles, je ne vois qu'un monde qui gît sous le pouvoir du mauvais. Tu ne vois plus Dieu. Alors tu es impur. Tu as les yeux impurs. Tu es malade de cécité spirituelle. Frères et sœurs, je vous le dis franchement, si on ne voit que que ce qui va mal, et si on pense que c'est la cata et ça va être la cata et ça va être la cata, multiplié par la cata, exposant la cata, ça fait juste, ça s'appelle la désespérance. Et ça s'appelle ne plus voir Dieu. Celui qui prie n'a plus peur, n'a pas peur de l'avenir. Celui qui prie voit Dieu à l'œuvre. Celui qui prie et rend grâce, il voit Dieu à l'œuvre. Au milieu des ténèbres, oui, il ne s'agit pas d'être dans le déni et de ne pas voir les ténèbres. On les voit. Mais est-ce que nous voyons la lumière dans les ténèbres? La cécité consiste à dire, ah ben je ne vois que les ténèbres. Je ne sais plus où est Dieu. Il y a trop de souffrance, trop de maladies, trop de corruption, trop de... Et tout ça, et tout ça. Mais est-ce que tu vois Dieu ou tu le vois plus? J'aperçois les gens, c'est comme si c'était des arbres que je vois marcher. Ah, et tu devines, et tu ne vois pas. Tu devines. Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli. Et il voyait tout nettement de loin. Bien sûr, ce n'est pas une opération d'un bon ophtalmo dont il s'agit. C'est la guérison d'une cécité profonde. Il s'agit pour nous de voir les choses nettement et de loin. Nettement et de loin. De loin, c'est-à-dire de Dieu. Si on se contente d'un regard journalistique, on ne voit pas de loin. Parce qu'on reste dans le descriptif. Le bon regard, c'est celui de Dieu. Que vois-tu? Ah ben je te vois, Seigneur. Je te vois en train de bénir, je te vois en train de sanctifier, je te vois en train de souffrir, je te vois en train de pâtir, je te vois en train de, oui, de souffrir. Puis je te vois heureux. Je te vois en train de bénir celui-ci, de regarder celui-là. Je te vois dans la foi. Mais je te vois. J'ai le cœur pur, Seigneur, parce que tu m'as guéri d'une cécité spirituelle par le toucher, en touchant mes yeux. Alors voilà, frères et sœurs, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais la puissance du toucher, c'est que ça nous remet devant le réel. C'est pourquoi j'ai commencé par la catéchèse, par un petit regard philosophique, une philosophie réaliste bien sûr. Le toucher, ça nous met devant le réel. La peur, c'est beaucoup lié à l'imaginaire, par exemple. On a l'impression que le Covid va nous sauter dessus avec qu'il a des grosses dents, hein, et qu'il va passer par la clim de la voiture et qu'il va me... Hein, quand je suis tout seul. Il y a des peurs comme ça qui sont très très liées à l'imaginaire. Le toucher nous fait sortir de l'imaginaire et de la peur qui va avec. C'est très important. C'est puissant le toucher. Un enfant qui a peur, par exemple, qui fait un cauchemar. Vous l'entendez, il fait un cauchemar, vous allez le voir. Vous le touchez. Et vous dites, ne t'inquiète pas, papa est là, maman est là. Mais vous le touchez. Si vous restez au fond et vous entrevoyez la porte, t'inquiète pas, ça va aller, mon petit. C'est pas pareil. C'est déjà bien. Mais si vous le touchez, c'est beaucoup plus fort. Pareil, la même chose avec les personnes âgées qui ont peur. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup, 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 frères et sœurs. Elles ont peur d'être abandonnées, de ne plus être aimées, peur de tomber malade, évidemment. Il faut les toucher. Bien sûr, j'ai provoqué un peu tout à l'heure. Bien sûr, avec les précautions nécessaires. Mais ne tombons pas dans la peur. Laissons les seigneurs nous sortir de nos peurs en nous touchant. Amen. Alléluia. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.